Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Il est minuit 32 ici au Qatar, 22h32 en France. Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là, c'est l'after jusqu'à 1h du matin. Vous le savez, grâce à notre partenaire Foot Corner, vous gagnez les maillots de foot pendant toute la Coupe du Monde. C'est cadeau pour gagner ce soir le maillot de l'Angleterre. Il suffit d'envoyer le mot foot par SMS au 732-16, foot par SMS au 732-16. On aura le gagnant avec nous d'ici minuit. Avant de parler des États-Unis, concluons sur l'Angleterre avec Ismet au 32-16 qui est là. Salut Ismet.
Bonsoir à tous.
Salut Ismet.
Ismet, toi, t'es pas hyper convaincu par l'Angleterre ?
Non, pas du tout. Je voulais revenir sur les propos de Julien Laurence et je suis plutôt d'accord avec son collègue du Télégraphe. C'était mieux avant. Et aussi, quand il dit qu'il trouve que du milieu à l'attaque, c'est vraiment exceptionnel, moi j'ai du mal, hein, parce que je trouve que si demain je dois composer un milieu ou une attaque, dans mes premiers, deuxième, voire même troisième choix, je mets aucun des Anglais en fait.
T'es sûr que t'as les bonnes chaînes sur ta télé?
Ouais, je suis sûr.
Ah non, mais là,
t'es pas fan de Harry Kane, t'es pas fan, quoi.
Ah non, mais là, c'est pas possible. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, ce sont des joueurs.
Attends, donnez son point de vue. Vas-y, Ismet.
C'est pas que je suis pas fan, c'est un très bon joueur, mais pour moi, il y en a 3-4 meilleurs. Donc, je trouve pas forcément.
En avant-centre? En avant-centre?
Ouais.
Bah, cite-moi 3-4 meilleurs avant-centre, vas-y.
Benzema, Lewandowski, Haaland, pour commencer.
Bon, franchement.
Franchement.
Lewandowski, je suis pas sûr du tout. Non, je suis pas sûr du tout que je mets Lewandowski devant Harry Kane en neuf, ce qu'il apporte globalement.
Il est pas loin,
Mais bon,
soit largué face à Harry Kane.
Ouais, voilà, ils sont pas. T'as cité un groupe où tu as là des avancantes qui se tiennent, quoi. Ils jouent pas dans les mêmes clubs et dans les mêmes contextes. Harry Kane dans une équipe encore au-dessus, peut-être serait encore meilleur. Non,
Peut-être.
Tu dis ça comme quelque chose de totalement évident. Tu vas pas en trouver beaucoup d'autres des neuf meilleurs que lui. Hein. Il est chapeau 1, quoi qu'il en soit, des neuf. Hein.
Oui, là-dessus, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas exceptionnel. Pour moi, il y en a quelques-uns devant lui encore. Et pour finir
sur Harry Kane. Harry Kane est exceptionnel. Tu peux pas dire que c'est pas exceptionnel. Tu peux dire que c'est pas ton préféré. Mais c'est un joueur hors norme. C'est un joueur exceptionnel.
Mais il l'a dit, Ismet.
Tu trouves quoi, surcoté?
Un peu surcoté, ouais.
Ah, c'est ton avis, hein.
T'es sûr que tu regardes vraiment le football anglais?
Ouais.
Ça t'intéresse vraiment?
Ah oui, mais bien sûr.
Tu regardes les matchs, c'est vraiment quoi?
Oui, bien sûr, je regarde la Première Ligue et tout. Évidemment. Juste, je voulais dire aussi sur l'Angleterre, moi je trouve que leur problème à l'Angleterre, c'est qu'ils surfent un peu sur leur championnat. Ils ont le meilleur championnat, il n'y a rien à dire, le plus populaire, tout le monde le regarde. Mais c'est pas leurs joueurs qui sont les meilleurs déjà au sein de leur propre championnat. Et leurs joueurs, ils ont beaucoup de mal à s'exporter en Europe. Ils ont 3-4 joueurs, grand max, qui jouent dans d'autres championnats européens.
La question, t'as coupé les jambes.
Bon, apparemment, il y a eu
Moi je l'entendais.
Ismet, il n'est pas convaincu par l'Angleterre. Chacun son point de vue, on verra ce qu'ils font.
La perspective de
la France-Angleterre en quart.
Lui, il parlait des joueurs.
Ah, ça y est, Ismet est revenu.
On t'entendait plus.
Vas-y, continue.
Donc, demain, tu fais une équipe entre Bellingham et Rabiot, tu prends Rabiot?
Non, entre Bellingham et Rabiot, non, je prends Bellingham. Mais Bellingham, je pense qu'avant lui, j'en prends d'autres. Si j'ai le choix entre tous les milieux, j'en prends d'autres avant lui.
Après, Ismet, est-ce que tu es quand même d'accord avec mon constat de tout à l'heure, disant quand même que l'Angleterre vient de faire finale de l'Euro perdue au pénalty, au bout du bout, face à l'Italie, et demi-finale de la dernière Coupe du Monde? Ça, c'est quand même un fait.
Non, je suis d'accord. Ils ont des résultats, mais c'est pas pour autant que moi je les trouve flamboyants en fait.
Après, quelle est l'équipe flamboyante depuis 4 ans au niveau mondial? Franchement, il y a vraiment une équipe, à part le Brésil, et encore, ils ont perdu la Copa América contre l'Argentine, mais quelle est l'équipe flamboyante? Aujourd'hui, je pense que les sélections internationales flamboyantes, il y en a vraiment peu, pour pas dire pas. C'est des équipes de coups, comme a fait l'Italie, qui a fait un excellent euro derrière, qui se qualifie même pas pour la Coupe du Monde. Voilà, l'Angleterre, t'en as parlé. C'est vrai que défensivement, tu as toujours l'impression qu'ils peuvent faire mieux, etc. Mais la France, c'est pareil. L'Espagne, personne ne les voyait dans les favoris, et finalement, ils sont en train de forcer la porte. Donc, je veux dire, tu sais, une compétition comme ça, c'est aussi une dynamique. D'abord, faut sortir des poules, peu importe la manière. Si possible, premier, c'est ce qu'a fait l'Angleterre.
Après, c'est des matchs couperets. Des fois, tu peux te traîner jusqu'au pénau et te qualifier au pénau. Les compétitions internationales, c'est un football qui est vraiment différent. Il faut jamais s'enlever ça de la tête.
Il y a une chose qui est sûre avec les Anglais, c'est qu'ils ont de la qualité individuelle offensive. Et ça, en général, c'est quand même bien.
Ismet, je te remercie. On va conclure là-dessus sur l'Angleterre avec, donc, je le répète, une perspective éventuelle d'un France-Angleterre en quart. Julien, Laurence commence déjà à nous préparer, vous l'avez entendu. Juste sur les États-Unis, Daniel, j'ai les stats sous les yeux. Mine de rien, c'est quand même quasiment une fois sur deux les huitièmes, même plus qu'une fois sur deux. Depuis 94, ils sont en huitième. 2002, ils sont
94, c'est leur virage. Ils organisent la Coupe du Monde et c'est là où ils développent beaucoup plus le soccer.
Depuis, ils sont là tout le temps, sauf 2018 où ils sont pas qualifiés. Mais ils sont en huitième, hein, donc 94, 2002, 2010, 2014 et donc 2022, donc sur les huit dernières Coupes du Monde.
Donc pour eux, c'est un standard d'aller en huitième. Très bien.
En quelque sorte. Mais en général, c'est vrai que s'ils passent pas les huitièmes.
Non, mais c'est bien déjà.
Un peu leur plafond de verre.
Pour ce qui est le football chez eux, pour la culture et leur réservoir joueur, aller en huitième de Ligue des Champions, ça veut dire être top 16. C'est un très bon résultat.
Antoine Latran est avec nous, il est journaliste spécialisé dans le foot américain, la MLS, la sélection US. Bonsoir Antoine.
Bonsoir messieurs, merci beaucoup pour l'invitation.
Antoine.
On est ravis de.
Antoine Latran.
Oui, comme les accords de Latran.
Ou comme Saint-Jean.
Ou comme Saint-Jean de Latran, exactement. Antoine, déjà le match, ça n'a pas été évident, et l'Iran a bien failli jusqu'au bout égaliser. Alors en 98, c'est l'Iran qui avait gagné 2-1, on s'en souvient. Bon, là on va dire qu'il y avait une portée géopolitique un peu moindre pour ce match-là, mais enfin voilà, on va dire revanche américaine.
Ouais, c'est ça, la portée géopolitique était plus côté iranien, finalement, à l'intérieur même de leur pays que entre les relations entre les deux pays. Mais pour revenir au foot, dans le match, il y avait vraiment les États-Unis qui ont plutôt bien géré la première mi-temps, comme il l'avait fait, je trouve, contre le Pays de Galles, et en moindre mesure contre l'Angleterre, mais tout de même. Et la même chose qu'on a à chaque match pendant cette Coupe du Monde, c'est que c'est un groupe très jeune. Là, c'était l'équipe la plus jeune qui ait jamais joué dans cette Coupe du Monde, là, à 24 ans. Et ça se voit, c'est-à-dire qu'à la 60e, ils sont cramés. À la 60e, il y a des crampes, il y a des joueurs qui n'arrivent plus, il y a des mauvaises décisions. Et en fait, il n'y a pas les changements qui sont derrière, qui sont assez efficaces. C'est-à-dire qu'il y a eu un manque quand même de profondeur de banc et un manque de mentalité un peu d'ancien dans cette équipe, qui fait que en deuxième mi-temps, c'est plus compliqué. Ça a été sur tous les matchs. L'équipe d'Iran a aussi plutôt bien joué certains coups. Et il y a un manque de finition qui est évident avec cette équipe des États-Unis et qui fait énormément mal. Enfin, vraiment, si ce match avait fini un partout, par exemple, je pense qu'il y avait vraiment des énormes remords à se faire sur le premier match face au Pays de Galles.
Oui. C'est vrai que depuis le début de la Coupe du Monde, on le dit, il y a pas de méga star Daniel ou Kevin dans cette équipe. Pulisic, on va dire que c'est le joueur le plus.
C'est le joueur que tu mets en avant.
Pulisic, pas non plus chapeau 1.
Comme tu peux pas en mettre plus en avant. D'ailleurs, Pulisic, tu sais que quand il commence sa carrière, il a un destin de chapeau 1. Après, ça se passe moins bien. Voilà, mais on va dire que c'est le joueur le plus connu de cette équipe, c'est le joueur phare.
Timothy Weah qui joue très peu à Lille, là il est titulaire.
Mais il est pas mal, hein. Il a mis un but, le but qui a été refusé là, son extérieur du pied, c'est la classe, hein. Geste de classe, hein.
Franchement, ils ont quand même une bonne génération, comme disait Daniel. C'est loin d'être le sport numéro un là-bas. On en avait parlé avec Wagnoloa, il y a quelques jours. Il nous avait donné pas mal d'indications sur comment se passe le football de masse aux États-Unis, qui est quand même assez élitiste. Mais quand tu vois des joueurs quand même, le gardien Matt Turner, c'est vraiment un très bon gardien qui est numéro 2 Arsenal. Sergi Nodès qui est formé à l'Ajax.
Il fait des dégagements. Vous avez vu les dégagements qu'il fait, ce gardien?
Il est très long, vraiment moderne.
Il est capable d'aller dans la surface adverse. Hein. C'est rare pour un gardien de but.
C'est très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dû être recruté par Arteta, qui aime les gardiens comme ça, qui ont un bon coup de pied pour faire un peu comme Ederson, être capable de trouver les attaquants derrière la défense. Sergi Nodès qui a quand même choisi la sélection américaine alors qu'il était vraiment courtisé pour aller avec les Pays-Bas. Il y a des joueurs de qualité. Moussa au milieu de terrain. Bon, McKenny avec la Juve, on voit que c'est un gars un peu extravagant, mais qui a des qualités. Et voilà, il y a Pulisic.
Ouais, mais là il se cadre complètement dans l'équipe des États-Unis. Il se la joue vraiment taulier, quoi. Genre, il joue sérieux.
Ouais.
Mais bon, il n'a pas ce côté un peu fantasque.
Il a quand même la coupe de cheveux, mais bon, pour le reste.
Oui, voilà, c'est ça, exactement.
Kevin, je ne sais pas cette. Cette obsession des coupes de cheveux des footballeurs.
Mais non, moi, il y a deux choses pour un footballeur, pour moi. Bon, maintenant, c'est un peu moins le cas, mais à l'époque, en tout cas, quand j'étais aux Pays-Bas, on disait les défenseurs doivent avoir les chaussures noires et des coupes de cheveux normales. Eh bah, écoute, je suis un peu resté sur cette rigueur batave parce que, voilà, je pense qu'un défenseur.
Et donc, l'attaquant qui est peroxydé avec des pompes fluo, c'est normal, c'est ça?
Alors, nous, pour te dire la vérité, au RBC Rosendal, on avait un deuxième gardien qui venait de l'Ajax qui avait des chaussures jaunes. À un moment, tu vois, bon, il y a toujours des chaussures jaunes, mais là, c'était des chaussures jaunes. Et en fait, il a retrouvé ses chaussures jaunes attachées au lampadaire du stade. Parce que les anciens ont dit que, voilà, un jeune gardien ne devrait pas avoir des chaussures jaunes. Voilà.
Très bien. Écoute, non, mais écoute, pourquoi pas.
C'est la sobriété. La sobriété pour certains postes. C'est important.
Antoine Latran est de retour avec nous. Antoine, là, on a la perspective donc, d'un match face aux Pays-Bas. Comment tu le sens, toi? Une nouvelle fois plafond de verre américain, les huitièmes de finale, ou tu te dis que cette équipe a la capacité de faire mieux?
Je trouve que l'adversaire est plutôt bon pour les États-Unis, mais c'est clairement pas l'objectif. L'objectif premier, c'est de sortir du groupe et d'engranger de l'expérience pour 2026. Là, il y a un adversaire qui fait un mondial plutôt bon, mais sans non plus surprendre qui que ce soit, les Pays-Bas, et c'est un test à la hauteur des États-Unis qui ont l'habitude de jouer quand même des grosses nations en CONCACAF, et à chaque fois que ça a été le cas, face au Mexique notamment, ils ont réussi à battre le Mexique avec beaucoup d'envie. Donc les gros adversaires, ça ne fait pas peur, c'est plus justement contre des grosses puissances, comme on l'a vu contre l'Angleterre, qui maîtrisent leur match plus que contre des petites équipes comme on l'a vu là, Pays de Galles ou l'Iran. Donc ils arriveront en outsider, ils sont meilleurs comme ça, ça permet à leur milieu de terrain notamment, enfin vous en avez parlé de Matt Kenny, mais il y a aussi Tyler Adams qui fait une super Coupe du Monde ou Younes Moussa de ses côtés. Donc ça permet à cette équipe de développer un peu son jeu. Maintenant, il reste un gros problème, comme je disais plus tôt, c'est la finition qui est terrible dans cette équipe et qui fait perdre énormément de points. Il n'y a pas de numéro 9. Et il y a aussi la question de Christian Pulisic qui est sorti sur blessure, qui est en train de passer les scanners actuellement. Et reste à voir si
ça sera
le prochain match.
Alors, c'est où finalement qu'il s'est blessé alors?
Apparemment à l'abdominal, mais il y a des solutions sur le banc. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, vous parliez un petit peu de Première Ligue un peu plus tôt, mais Brendan Aronson fait une super saison à Leeds, et puis il y a aussi le jeune Jurena qui est souvent blessé, mais qui est en forme là pour cette Coupe du Monde et qui a très peu joué jusque-là, et ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit un petit peu contre les Pays-Bas.
Antoine, merci beaucoup. Bah, on te retrouvera peut-être qu'on te repassera un petit coup de fil en huitième. Évidemment, c'est un match qu'on va suivre, qui sera programmé ce week-end. D'ailleurs, je vous ai pas donné la programmation.
Ça, c'est un match de samedi, ça, non?
Oui.
16h, ouais.
Samedi.
Samedi, 16h, heure française. Et l'autre match entre.
Le soir, Angleterre.
Non.
Angleterre, non, Sénégal, c'est pas samedi soir?
Non, c'est premier du groupe C contre le deuxième du groupe D. Donc le premier du groupe B, ce sera dimanche soir à 20h.
Après la France.
Ouais, le match Angleterre-Sénégal.
Oui, c'est ça.
Dimanche soir à 20h.
Oui, bien sûr. Oui.
Merci Antoine. Et une petite info iranienne. Alors, vous savez qu'en Iran, là, en ce moment, il y a des scènes de liesse dans les rues après la défaite. Mm-hmm. En fait, pourquoi? Vous retrouvez des infos sur rmcsport.fr. Parce que malgré le boycott de l'hymne national lors du premier match, l'équipe nationale iranienne est considérée comme par beaucoup de manifestants en Iran comme trop timide vis-à-vis des autorités, voire même pro-pouvoir. Et du coup, ce soir, après l'élimination, certains sont allés fêter l'élimination dans les rues.
Alors, il y a une autre information.
Oui, oui, non, mais effectivement. Et il y a une autre information qui nous est arrivée aujourd'hui, qui vient de CNN. CNN explique qu'il y a des familles de certains joueurs iraniens qui ont été menacés de représailles si jamais les joueurs faisaient montre d'un peu trop de soutien aux manifestations en Iran. Donc bon, si ça, ouais, c'est ça, le
ça
cas
doit,
effectivement,
ça doit pas peut, être facile peut... quand même pour les joueurs, hein.
Ah, évidemment.
Non, c'est pas simple. Mais en plus, les joueurs avaient plutôt au début vraiment été du côté des
CNN manifestants. CNN parle de menaces de violence et de torture contre les familles des joueurs.
Les joueurs s'étaient exprimés, ils avaient pas chanté l'hymne, je veux dire l'équipe de foot, je l'avais quand même trouvé très courageuse, hein.
Bah, peut-être pas assez pour certains, hein, du coup. En tout cas, voilà pour l'Iran. Dans un instant, les gars, on revient pour parler du groupe du Sénégal. Tu vas nous parler du match des Pays-Bas face au Qatar. On n'a rien vu, nous, hein, puisqu'on était au match avec Daniel, Sénégal-Équateur.
C'était pas glorieux.
On compte sur toi. Et puis, il y aura Hamza également qui va nous rejoindre pour nous parler du Sénégal et de la Tunisie, adversaire de la France demain. Ce sera évidemment sur RMC. Comme tous les matchs de la Coupe du Monde, on se retrouve dans quelques instants dans l'after.